Heureux d'être avec vous ce matin, mais je me rends compte en tout cas que le temps passe tellement vite que ça fait quand même un certain temps que je ne vous ai pas rendu visite, et donc quand on m'invite, eh bien voilà, je réponds présent à l'appel. Alors pour que je sois certain que vous ne vous endormiez pas pendant le culte, vu la chaleur accablante, je vous ai amené un tout petit peu de fraîcheur de la province. C'est pas bien ça? Vous connaissez quand même que je suis gentil en commençant la méditation de ce matin. Voilà. Alors, nous allons ensemble réfléchir sur un texte que vous connaissez probablement. J'ai eu une information qui m'est arrivée comme ça, d'une manière un peu impromptue, comme quoi vous étiez plongé dans l'évangile de Jean. Est-ce que c'est exact? Ne me dites pas le contraire, parce que sinon, je vais avoir un gros souci. Alors, et que vous êtes arrêté au chapitre 14. Et donc, je vais commencer le chapitre 15 avec vous. Chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Ne vous étonnez pas si j'ai une lunette un peu particulière. Ce n'est pas que je veux créer une nouvelle mode avec des lunettes à une seule branche. J'ai eu un petit accident domestique qui fait que, voilà. Donc, ne vous étonnez pas. Évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 1er. Et nous lirons jusqu'au verset 17. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé et demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà pour la lecture de ce matin. Puisque vous êtes dans l'évangile de Jean, vous savez que juste avant, Jésus était dans la chambre haute, avec ses disciples. Et à un certain moment, à la fin du chapitre 14, Jésus déclare au verset 30, « Eh bien, je ne vous parlerai plus beaucoup. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il ne vient pas de moi. » Et mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Voilà un peu le contexte dans lequel on se situe. D'un moment dans la chambre haute où le Seigneur a clarifié la position de Judas. Un moment où il a dit à Pierre aussi ce que Pierre allait faire, c'est-à-dire qu'il allait le renier à trois reprises. Pourtant, il ne les a pas rejetés. Mais il va en tout cas nous donner un certain nombre d'enseignements à ses disciples, tout ce qui va leur permettre de savoir ce qu'ils doivent faire pendant ce moment où Jésus va aller à la croix et surtout après que le Seigneur sera mort sur cette croix et qu'il sera ressuscité. Partons d'ici, levons-nous et partons d'ici. Et donc le chapitre 15 commence dans une période où on ne sait pas très bien, est-ce que Jésus est resté dans la chambre haute ? Non. Apparemment, la plupart des grands commentateurs disent que non, mais que Jésus est parti vers cet endroit où tout doucement il savait ce qui allait l'attendre. Et en partant, il a probablement vu une vigne et il a utilisé ce qu'il a vu comme symbole pour nous annoncer quelque chose qui va être très important pour nous. C'est d'ailleurs souvent ce que Jésus a fait. Il a souvent utilisé des choses de la vie courante pour nous enseigner et pour nous montrer à quel point il veut que nous le suivions. Et dans cette déclaration qui commence au chapitre 15, il va commencer celle-ci d'une manière un peu brutale. Et ce n'est pas dans son habitude pourtant. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Sauf qu'il ajoute directement, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il retranche. Ce n'est pas courant de commencer une conversation comme ça, n'est-ce pas ? Ça paraît un peu brutal. Heureusement qu'il continue en disant que tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Jésus veut faire apparaître un souci important qui doit être la normalité dans la vie du chrétien. Porter du fruit. Pas être passif, pas être simplement spectateur, porter du fruit. On verra après ce que ça veut dire. Pour comprendre d'ailleurs un peu la profondeur de cette déclaration que Jésus a faite, il faut prendre un peu de temps pour faire un peu de botanique. C'est intéressant, ce n'est pas pour rien qu'il prend une illustration. Il faut la comprendre. Et Jésus dit « Je suis le sceptre ». Le sceptre, dans forcément la notion de la vigne, c'est l'élément le plus essentiel. Pourtant, c'est l'élément qu'on ne voit presque pas. C'est étonnant. Le sceptre, il est enfoué dans la terre, pratiquement. Il n'y a qu'une petite partie qui dépasse. Tout le reste est en terre. Le sceptre, il s'alimente des minéraux de la terre. Vous savez, on ne plante pas une vigne dans des terres de remblai, hein. On ne plante pas une vigne dans de l'argile. Il faut une terre bien particulière pour planter une vigne. C'est particulièrement important. Mais le sceptre, il a juste un rôle, un seul. C'est de communiquer sa puissance de vie au sarment. Il n'a pas pour rôle de créer des bourgeons supplémentaires, il n'a pas pour rôle de créer des sarments plus gros, il a juste pour rôle de communiquer sa puissance de vie, qu'on appelle la sève. Et puis il y a le sarment. Le sarment, c'est ce qui est directement lié au cèpe, directement attaché. Et dont le rôle principal, ce n'est pas non plus de créer des bourgeons, c'est de transmettre la puissance de vie qu'il reçoit du sceptre pour qu'il y ait du fruit à la fin du sarment. C'est ça la réalité. Et parfois, pour y arriver, il faut couper certaines excroissances, parce que ces petites excroissances qui vont à droite et à gauche, eh bien elles vont s'approprier la puissance de vie sans porter de fruits. Et ça, c'est le travail du vigneron, ça. Parce que Jésus a bien insisté pour dire que son Père, c'est son Père qui est le vigneron. Et puis, il y a le fruit. Le fruit, ben, tout le monde sait ce que c'est. C'est la grappe de raisin, bien entendu, qui en elle-même n'a pas de vie. Hein. Une grappe de raisin, quand vous la prenez, ça n'a pas de vie. Ça ne bouge pas. Sauf que le fruit montre la puissance de vie que le sarment a transmis. Ça, c'est important. S'il n'y a pas de vie qui a été transmise par ce sarment, eh bien, le fruit, c'est tout petit, mais il n'y en a pas du tout. La vigne, mes chers amis, dans son ensemble, c'est un lieu quelque chose qui exige beaucoup de soin. Moi, j'ai un ami qui possède environ 150 pieds de vigne dans la région de Charleroi. Ah oui, de temps en temps, dans des endroits, Charleroi, on peut planter de la vigne. Il a 150 pieds de vigne. C'est fou le temps qu'il passe là-dedans. Et il me dit, si tu savais combien ça me délasse d'aller passer mon temps dans cette vigne et de couper. Et je suis allé une fois, il a un tout petit sécateur, pas plus grand que ça. Et il coupe avec son petit sécateur à droite et à gauche. Il passe l'un à l'autre régulièrement pour qu'à la fin de la saison, les fruits soient présents. Mais comme je vous ai dit tantôt, le cep, il est à peine visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les sarments qui en révèlent la présence. Or, qu'est-ce que Jésus a dit? Moi, je suis le cep, mais c'est vous les sarments. Donc, c'est vous qui devez être les témoins de la présence du cep. Très important, mes chers amis. On le verra après. Mais sans le cep, les sarments n'existent pas. Hein? Non, il n'y en a pas. Ça veut dire aussi une chose, mes chers amis. Jésus, au travers déjà de cette illustration, de simplement cette petite analyse botanique, il nous montre qu'il a besoin de nous pour se faire connaître au monde. Et nous, nous avons besoin de lui. Non pas pour avoir un bon copain, hein? Non pas pour avoir simplement besoin de quelqu'un qui intervient dans tous nos problèmes. Nous avons besoin de lui comme étant la source de la puissance de vie que nous devons démontrer. C'est pour ça que nous avons besoin de lui. Parce que c'est notre rôle. S'il y a de la stérilité spirituelle, parfois chez certains, elle ne peut jamais mettre en cause le cep, c'est-à-dire Christ. Jamais. Elle ne peut mettre en cause qu'une seule chose, c'est le sarment. Et le sarment, c'est nous. Et c'est pour cela que Jésus dit que le propriétaire qui le vigneron doit intervenir de temps en temps et émonder. Parce que c'est lui qui veut recueillir les fruits. Il ne faut jamais l'oublier. Les fruits, nous ne les portons pas pour nous-mêmes. C'est le vigneron qui va récolter les fruits. C'est pour lui que nous devons porter ce fruit. Et c'est pour ça que de temps en temps, il prend du temps pour couper à droite et à gauche. On le verra après. Alors maintenant qu'on a fait ce petit coup de botanique très rapide, bien entendu, il faut qu'on s'intéresse au centre même de ce que Jésus a dit dans ce texte. Quel est le sens, quel est l'objet même de cette déclaration de Jésus? C'est de parler du fruit. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, en relisant et en l'étudiant, je me suis rendu compte d'une chose que je ne me suis pas toujours rendu compte. Pourtant, après autant d'années, je devrais, mais c'est comme ça, la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Je me suis rendu compte qu'il y a quatre positions que l'on peut avoir en ce qui concerne ce fruit. La première position, c'est la première partie du verset 2, c'est-à-dire de ne pas emporter. Ah ben oui. La deuxième, dans la deuxième partie du verset 2, c'est de porter du fruit. La troisième, c'est au verset 4, c'est d'emporter beaucoup, d'emporter. N'emportez plus. Et au verset 5 jusqu'au verset 8, Jésus nous parle qu'il faut aussi emporter beaucoup. Voilà les quatre positions qui peuvent se manifester dans la vie d'un croyant. Donc, il est clair que Christ veut nous transmettre sa puissance de vie. Mais quelle est cette puissance de vie? Quel est ce fruit dont Jésus parle? Parce que c'est ça qu'il faut définir. Quel est ce fruit dont Jésus parle, qui vient de cette puissance de vie, si ce n'est que l'amour de Dieu? Vous avez compris? si ce n'est que l'amour de Dieu. Il nous demande pas seulement de jouir de son amour, il nous demande de le laisser couler en nous pour que nous puissions faire disparaître tout ce qui n'est pas la manifestation de cet amour. Vous savez, le fruit en question, quand on parle de ce fruit dont Jésus parle, contrairement à ce que nous croyons, ce n'est pas l'exercice d'un tas d'activités dans l'Église. Non, chorale, auditeur, présidence, Jack, ancien, entretien des locaux, on pourrait continuer la liste de tes activités. Évangélisation, non, non, mes amis. Tout ça, ça fait partie de notre service. Mais il ne faut pas confondre service et fruit. Ce n'est pas la même chose. Ça fait partie de notre service et la démonstration tout simplement du juste retour de notre désir de servir notre maître. C'est normal. Le chrétien est appelé à servir et pas à se servir. Vous savez, moi je connais plein de chrétiens qui sont débordants d'activité. J'en connais tout plein. Ils sont tellement débordants d'activité qu'ils sont toujours débordés d'ailleurs. Ce n'est pas compliqué. Quand vous leur demandez quelque chose, ils n'ont jamais le temps. Ils sont toujours débordés. Mais qui pourtant ne sont pas capables de porter ce fruit dont Jésus parle. C'est ça qui est dramatique. Ils sont focalisés sur leurs activités. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de patience. Ils n'ont pas de bonté. Ils n'ont pas de miséricorde. Ils n'ont pas de maîtrise d'eux-mêmes. Ils n'ont pas d'humilité. Ils sont focalisés sur leur activité, mais sans s'occuper des autres. Alors au lieu d'être dans la joie, dans ce service qui leur est demandé, ce que Jésus nous demande à Dieu, ils sont toujours tendus. Au lieu de démontrer de la douceur, ils sont agressifs. Au lieu de faire preuve de patience, ils sont toujours sur des charbons ardents. Au lieu de manifester de la miséricorde, ils sont animés d'un esprit de jugement. Ça fait penser à l'histoire de ce pasteur qui rend visite à une dame de l'église qu'il n'a plus vue depuis un certain temps. Et puis, l'entretien commence, et cette dame, forcément, dans son entretien, assez rapidement, l'entretien tourne au fait que la dame en question, cette brave sœur, commence à se plaindre de sa santé. Bon, ça peut arriver. Elle se plaint aussi de ses voisins et elle se plaint surtout des frères et des sœurs dans l'église. Il n'y a rien qui va, hein? Et au bout d'un moment, le pasteur est quand même un petit peu excédé, hein? OK, on peut le comprendre. Mais quand il est arrivé, la dame est occupée à faire une tapisserie. Et le pasteur, n'en pouvant plus, il prend la tapisserie et il la retourne. Et il dit à cette dame, « Oh, c'est vraiment pas beau ce que vous êtes en train de faire. Hein? Moi, je vois plein de nœuds et je vois plein de laine, plein d'époux qui dépassent partout. C'est pas beau, ça ?» Et cette dame dit, « Mais, monsieur le pasteur, désolé, mais vous tenez la tapisserie à l'envers. » Mais le pasteur fait semblant de rien et il continue. « Oh, c'est vraiment pas beau ce que je vois. Des bouts de laine, il n'y a rien de correct. Là. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente rien. » Finalement, la dame dit, « Monsieur le pasteur, vraiment, vous le faites exprès, hein ?» Et le pasteur dit, « Madame, ma chère sœur, je fais comme vous. Je fais comme vous. Vous regardez à l'envers tout ce qui vous entoure, et particulièrement les chrétiens et l'Église. Je ne vois que des nus. Et vous, vous ne voyez que le défaut et les faiblesses des autres qui vous entourent. Mais si vous les regardez à l'endroit, admirez un tout petit peu l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans leur cœur, et votre diagnostic sera un peu différent. Vous savez, quand on lit 1 Corinthiens 13, on est largement fixé. Hein, on peut avoir plein d'activités, on peut même parler plein de langues, on peut être débordant dans tous les domaines, que la liste, je ne vais pas la répéter, mais l'apôtre Paul dit quand même ceci, on peut avoir tout ça. Si on n'a pas l'amour, on est juste que quelqu'un qui fait beaucoup de bruit et rien d'autre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la lecture que nous avons faite, que le Seigneur Jésus a mentionné. Est-ce que le Seigneur Jésus, quand il dit, il les montre afin qu'ils portent plein, beaucoup de fruits, plein de fruits, des fruits, non. Il parle plus de fruits, du fruit de l'Esprit. Et celui qui nous donne la dimension totale de cette expression de Jésus, c'est l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Comment l'apôtre Paul commence-t-il ce texte? Mais il dit « le ». Est-ce qu'il dit « les fruits de l'Esprit » Non. Il dit « le fruit de l'Esprit ». C'est l'amour, la patience, la paix, la miséricorde, la bonté, la maîtrise de soi, et ainsi de suite. Donc toute la liste que l'apôtre Paul fait, c'est tout simplement la démonstration de cet amour que Christ veut manifester dans notre vie, sous ses différentes facettes. Mais mes chers amis, c'est ce que Christ a montré lui-même. Hein, il nous demande rien de plus que ce qu'il a fait lui-même et qu'il veut nous transmettre. C'est ça sa puissance de vie qu'il veut faire couler dans nos cœurs. Est-ce que vous savez quelle est la première des choses que Dieu fait dans notre vie lorsque nous l'acceptons comme sauveur personnel? Alors vous allez tout de suite dire, « Ah, il nous pardonne. » Non, mais jamais. Ça, il l'a déjà fait à la croix. Hein. Souvent, on se trompe par rapport à ça. Il l'a déjà fait à la croix. La première des choses qu'il fait dans notre vie, c'est de changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Ça, c'est la première des choses qu'il fait. Ça nous permet de changer notre façon de voir les autres, de voir le monde qui nous entoure autrement, et aussi de nous débarrasser de nos préjugés. Ça me rappelle un peu l'histoire de ce journaliste non-chrétien, athée, qui va visiter un peu une tribu, une peuplade un peu ailleurs en Amazonie, dans l'Amazonie très reculée. Et en arrivant dans l'entrée du village, il s'aperçoit que ces hommes qui vivent dans cette tribu sont chrétiens. Alors ils se moquent. Ils se moquent de leur attitude, de ce qu'ils sont. Ben oui, il n'est pas croyant. Et le chef du village appelle et dit, « Monsieur, venez un peu avec moi. Venez avec lui, suivez-moi. » Et il l'amène à l'entrée du village et lui dit, « Vous voyez cet arbre-là ? » ?»« Ah oui, je vois. » »« Et vous voyez la marmite qui est en dessous ?» Si vous étiez venu il y a 20 ans d'ici, vous n'auriez même pas franchi cet endroit, vous auriez terminé dans la marmite et nous, on aurait fait notre souper avec vous. Alors, remerciez Dieu de ce que nous soyons devenus chrétiens, parce qu'il a changé notre façon de vous voir, vous, alors que vous, vous n'avez pas la capacité de nous rencontrer et de nous voir tels que nous sommes aujourd'hui. Oh, bien sûr, lorsque nous acceptons Christ comme sauveur personnel, notre physique ne change pas. Non, mais intérieurement, mes chers amis, nous sommes changés. L'amour de Christ est répandu dans nos cœurs, et cela malgré nos faiblesses et malgré nos erreurs. Il faut quand même le dire, mes chers amis, ce n'est pas naturel pour nous d'aimer les autres, hein. Non, C'est naturel chez vous ? En tout cas, chez moi, pas. Surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Le contexte d'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Excusez-moi, mais ça, c'est la société qui nous entoure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne portons pas naturellement ce fruit dont Jésus parle avec toutes ses facettes. Naturellement, nous ne sommes pas en paix. Naturellement, nous ne propageons pas la paix. Naturellement, nous ne sommes pas patients. Naturellement, nous ne sommes pas bons. Naturellement, nous ne sommes pas miséricorde. Naturellement, nous ne sommes pas humbles. C'est ça la réalité. J'aime bien ce que le grand théologien que j'aime beaucoup du siècle passé, qui s'appelle Frédéric Godet, il dit ceci concernant ce texte que nous avons lu. Il dit, Jésus nous déclare, voilà ce que je suis pour vous, et voilà ce que vous êtes pour moi, moi le cep et vous les sarments. Donc, ne vous laissez jamais aller à la tentation de vous faire cep en prétendant tirer quelque chose de vous-même, dit-il. Parce qu'en moi, c'est la fécondité. Et en dehors de moi, c'est la stérilité. Et Frédéric Godet ajoute ceci. Le cep n'opère rien sans les sarments. Merci Seigneur. Sauf qu'il dit, mais ceci paralyse trop souvent l'action du cep au lieu de le propager et de le démontrer. Jésus sait de quoi nous sommes faits. Et la déclaration qu'il nous fait, mes chers amis, dans le texte que nous avons lu, elle n'est pas faite pour nous faire des reproches, même si c'est très tranchant quand même, il faut le dire. Elle est là pour nous faire comprendre que si nous ne sommes pas dans ce monde simplement pour jouir égoïstement de ce qu'il nous donne, nous ne sommes pas là simplement pour être tranquilles, pour être heureux, pour être débarrassés de tous nos problèmes. Nous sommes là pour être féconds sur le plan spirituel, c'est-à-dire à aimer comme Christ nous a aimés. Faire en sorte que Christ devienne le puissant moteur qui doit animer notre vie, au point, comme il le déclare au verset 13, d'être même capable de donner sa vie pour ses amis, parce que c'est bien ce que Jésus a fait. Vous savez, porter du fruit dont Jésus parle, ce n'est pas éventuellement une démonstration de grande spiritualité. Hein. Non. Ce n'est pas une fin en soi. C'est simplement ce qui doit animer notre vie d'une manière naturelle, si nous sommes véritablement conduits par le Seigneur. Ah, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais on ne peut pas aimer tout le monde, hein. Ok, on ne peut pas aimer tout le monde. Je sais que ce n'est pas facile. C'est quand même dommage d'entendre ça, hein. Parce que moi, je me suis dit, imaginons une seule fraction de seconde que Jésus ait tenu ce discours. On ne peut pas aimer tout le monde. Ben, je pense que le premier qui n'aurait pas aimé, c'est moi. Et peut-être toi. C'est ça qu'il faut faire, attention. Ce n'est pas pour rien, mes chers amis, qu'il a dit, l'apôtre Paul dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous devenions enfants de Dieu. » Waouh ! Pour que nous devenions amour de Dieu. Alors, mes chers amis, cessons peut-être, réfléchissons avant de donner ce discours. On ne peut pas aimer tout le monde, même si ce n'est pas facile. Alors maintenant que nous avons détaillé un tout petit peu ce fruit, je voudrais terminer en faisant quelques considérations pratiques. En nous posant la question, comment vivre de cette vie que Christ veut faire vivre en nous. C'est ça maintenant la vraie question. Comment faire ? C'est très bien de dire ce qui doit être, mais comment y être ? Eh bien, Jésus va répondre. Il ne nous lance pas comme ça des phrases pratiquement impossibles à réaliser s'il ne nous donne pas lui-même les solutions. Il va nous les donner. Et la première des choses qu'il va nous dire, c'est au verset 3. Verset 3, il faut se laisser émonder par Dieu lui-même. Ah, qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut lui laisser enlever tout ce qui est futile dans notre vie. Tout ce qui peut diluer cette puissance de vie que le Seigneur veut communiquer au travers de nous, tout ce qui peut nous empêcher de vivre dans une communion intime avec le Seigneur, tout ce qui prend notre temps et qu'on gaspille à des tas de choses qui ne servent qu'à nous faire plaisir et qui nous empêchent notamment de lire notre Bible, qui nous empêche de prendre du temps dans la prière, qui nous empêche de prendre du temps à écouter les autres. On a tellement du mal à écouter les autres. On aime bien s'écouter soi-même, mais ça, écouter les autres, ça, on n'aime pas trop. Se laisser émonder, ce n'est pas du piété extérieur, mes chers amis, qui réjouit le cœur de Dieu. Non, non, c'est notre désir de le laisser agir à sa guise au travers de nous et peut-être de se placer devant lui en lui disant, « Seigneur, je pense qu'il y a un cantique qui dit ça. Fais de moi ce que tu veux. Comme tu veux. Quand tu veux, Seigneur. Ce n'est pas moi qui dirige. Pour que je puisse développer toutes les facettes de ton amour. » Deuxième chose, verset 4. Jésus dit ceci, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Donc la deuxième chose, c'est qu'il faut demeurer en Christ. Ah, mes chers amis, tiens. Mais ça, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que nous avons une nature qui est tellement indépendante, hein ? Tellement indépendante. Oui, mais ça, je peux faire moi-même. Hein. Ça, je peux m'en sortir. Je n'ai pas besoin du Seigneur pour ça. Non, non, moi, je vais. On est tous des indépendants de nature. Hein. Moi, je suis par mon métier, mais en plus, je suis aussi personnellement, comme nous tous. On a tellement envie de s'en sortir par soi-même. Au lieu de rester attaché au Seigneur. Sauf qu'on a oublié une chose. Dans le petit moment de botanique que je vous ai dit tantôt, si le sarment est détaché de 3 mm du sceptre, 3 mm, c'est pas beaucoup, hein ? Mais c'est plus rien, vous savez. Il n'y a plus rien qui passe. C'est ça le problème. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a dit dans ce texte au verset 5, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Waouh! Un jour, quelqu'un qui m'a dit, donc, j'ai besoin de demeurer en Christ pour aller toute ma pousse. Non, parce que sans le Seigneur, je ne sais pas toute ma pousse. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Il parle des fruits, il parle du fruit en question. Sans moi, vous ne pouvez pas apporter ce fruit. Ce n'est pas possible. Alors, mes chers amis, ce serait vraiment extraordinaire si nous pouvions dire cette déclaration que l'apôtre Paul a faite dans l'Épître aux Romains, je pense, quand il a dit ceci. « Qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur ?» Qui ? Personne ? Rien ? J'espère que ce sera le cas pour nous ce matin. J'espère. Et puis la troisième chose que le Seigneur nous donne, c'est à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Le Seigneur nous dit la troisième des conditions pour pouvoir porter ce fruit en question, c'est obéir. Ah ben oui. Obéir, c'est-à-dire respecter ses commandements. Rester sans cesse sous l'action de sa parole. Ne pas rentrer chez soi peut-être ce matin en disant « Ouais, ce qui a été dit, ça ne me concerne pas. » Ah, c'est un peu dommage quand même, non ? Parce que l'apôtre Jean, il a dit dans sa première épître, « L'amour de Dieu est véritablement parfait en nous, en celui qui garde sa parole. » 1 Jean chapitre 2, verset 5. « L'amour de Dieu est parfait en nous, en celui qui garde sa parole. » Avoir envie de manifester cet amour, et notamment peut-être l'affaire au niveau de l'Église, par l'amour fraternel, parce que c'est bien ce que Jésus dit à la fin. Et j'insiste peut-être là-dessus, compte tenu notamment du monde dans lequel, égoïste dans lequel nous vivons, mes chers amis. Moi, il y a une chose que j'ai vécue pendant ces quelques années qui viennent de précéder, c'est à quel point la crise du Covid a détaché les gens de l'un à l'autre. Et de l'Église. Ils se sont focalisés à écouter le culte à la TV, à dire « on prend les choses au moment que je veux, je n'ai pas besoin de me lever. Si je regarde à 3 heures d'après-midi, c'est bien. Si je ne regarde pas, c'est bon. Je verrai un autre jour. » La crise du Covid. Vous savez qu'il y a des églises qui se sont vidées de moitié depuis lors. Les gens n'ont plus envie d'avoir ce partage dans l'Église. Ça a accéléré l'isolement des chrétiens, sans tenir compte de cette déclaration de l'apôtre Jean qui dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Waouh ! Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Cette déclaration de Jean, chapitre 15, mes chers amis, est d'une profondeur remarquable. Et je vous invite vraiment, vraiment, à y réfléchir plus que sérieusement. Alors je conclue avec vous ce matin, même si la déclaration de Jésus qu'il a faite en commençant peut nous paraître un peu dure. Oui, c'est dur d'entendre Jésus qui dit « celui qui ne porte pas de fruits, il le retranche ». Et il va même plus loin à la fin, mes chers amis, en disant ceci, c'est que quelque part, celui qui ne porte pas de fruits, il est vraiment jeté au feu. Ça paraît dur, peut-être. Mais si vous saviez à quel point, si nous inversons la phrase que le Seigneur a dite dans la deuxième partie du verset 2, si nous voulons porter ce fruit, si vous saviez à quel point c'est une source de richesse dans notre vie personnelle et dans la vie de l'Église. Tout serment ne peut pas créer des fruits artificiellement. Il a besoin du Seigneur Jésus pour ça. Il y a une technologie aujourd'hui qui prend un essor phénoménal, qui me fait d'ailleurs très peur personnellement. C'est forcément l'intelligence artificielle. La seule chose qui me réjouit dans cette notion, dans cette technologie, la seule chose qui me réjouit, c'est que cette technologie ne pourra jamais remplacer l'amour que Christ peut manifester dans notre cœur. Jamais. Il n'y aura jamais de technologie qui permettra de remplacer cela. Ce que Christ veut mettre en notre cœur est irremplaçable. Ne l'oublions jamais. Sauf qu'il faut maintenant ouvrir complètement la porte de notre cœur pour faire en sorte que cet amour de Christ rayonne dans notre vie de tous les jours, au sein de l'Église, entre les frères et entre les sœurs. Et cela même va probablement devenir un formidable outil d'évangélisation et de croissance personnelle et même de croissance de l'Église. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous guide. Que ce fruit dont Jésus veut que nous, que Jésus veut que nous portions, nous en soyons tous animés. Et que nous soyons surtout conscients de cette déclaration de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'essayez pas par vous-même. Mais avec lui, ça me fait penser à une autre déclaration qui me vient à l'esprit maintenant. Comme on dit généralement, avec Dieu nous ferons des exploits, mais avec lui on peut tout faire. Il n'y a pas d'obstacle à partir du moment où on est imprégné de cette puissance de vie que le Seigneur veut manifester en chacun de nous. Que Dieu vous garde, je vous invite à prier. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ton exhortation, même si elle paraît un peu dure au départ. Mais Seigneur, quand tu es dur, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour qu'au contraire, nous faire prendre conscience à quel point tu nous aimes. Et tu veux, Seigneur, vraiment, que nous portions ce fruit à la gloire du Père. Nous sommes conscients, Seigneur, de nos faiblesses dans ce domaine. Nous sommes conscients, moi le premier, de nos lacunes. Nous sommes conscients, Seigneur, que parfois, c'est vrai, nous avons tellement souvent tendance à considérer que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes. Quelle erreur! Alors, Seigneur, ce matin, parle à nos cœurs et que chacun rentre chez soi ce matin en disant, Seigneur, je veux vraiment porter ce fruit. Je veux vraiment, Seigneur. Et si tu dois tailler dans ma vie, fais-le si c'est nécessaire. Apprends-moi surtout aussi à obéir ce que parfois on a un peu trop tendance à négliger. Que chacun, Seigneur, tu nous incites à persévérer dans la lecture de ta parole, dans la méditation, dans les profondeurs dans lesquelles tu veux, Seigneur, nous instruire. Et merci, Seigneur, parce que tout ce que tu nous as mis dans ce texte, tu l'as démontré toi-même. On l'avons chanté tantôt, Seigneur, dans ce chant avant la Sainte Cène. Combien, Seigneur, tu as démontré à quel point tu as manifesté ce fruit par excellence. Non pas seulement pendant les années que tu es venu sur cette terre, mais encore toujours et toujours et toujours encore aujourd'hui. Merci pour ton œuvre. Merci, Seigneur, de nous rendre compte à quel point tu nous aimes. À quel point tu veux que nous soyons, Seigneur, des enfants qui te glorifient. Alors, dans ces moments, conduis-nous et encourage-nous. Et que ta gloire, Seigneur, se resplendisse dans notre vie, à chacun. Au nom de notre Seigneur Jésus et pour sa seule gloire. Amen.